Salut les amis.
Salut Charline.
Attention, aujourd'hui on reçoit un monument de la littérature francophone.
Waouh, BHL.
Non, un grand écrivain congolais.
Congolais.
Oui, oui, congolais. Non,
mais Charline,
et quoi ça, quoi?
Non, mais est-ce qu'il sait que nous, on est belges?
Mais c'est pas ce Congo-là.
Ah, c'est pas ce Congo-là.
Non, c'est Congo-Brazzaville.
Attendez, je pige rien là.
Bah, les Belges, nous, on était au Congo, Kinshasa.
Ouais. Hein. Bah, donc Tintin, il a pas pu croiser à la main banque.
Oui, non, c'est ça, si tu veux.
Non, parce que moi, mon grand-père.
Non, ça va.
Quoi?
Mais non, ça va. On veut pas connaître le passé colonial de ta famille. C'est gênant.
C'est pas le même Congo.
Oui, mais enfin, c'est pas loin.
Ah bon?
C'est normal que les deux Congos soient pas loin.
Ah oui, c'est séparé juste par le fleuve.
Mais quel fleuve?
Le fleuve Congo.
Pardon?
Bah, c'est le nom du fleuve.
Ouais. Faut avouer que c'est pas malin.
Bah mais quoi ça?
Donc le Congo est séparé du Congo par le Congo.
Bah voilà, oui.
Mais
oui.
Je pige rien du tout là.
Parce que moi mon grand-père.
Non mais arrête avec ton grand-père.
Mais il m'avait dit que ça s'appelait le Zaïre.
Oui, oui, bah pendant un moment, un Congo s'est appelé le Zaïre.
Et
oui.
Le fleuve alors?
Ah bah Zaïre aussi.
Et l'autre Congo là?
Congo toujours.
Je pige rien du tout.
Oh, donc il y a un moment où le Congo était séparé du Zaïre par le Zaïre.
Bah voilà, c'est ça, oui.
C'est très compliqué. Tu m'étonnes qu'il soit rentré mon grand-père.
Arrête parce... avec ton grand-père.
Mais c'est vrai ça, Alex, c'est déplacé.
Mais oui, pardon, paix à son âme.
Oh merde, pardon, il est décédé.
Bah oui. De quoi? Cancer du côlon. Ouais, évidemment.
Bonjour le Congo. Bonjour la France inter.
Les Congos.
Bonjour à tous. Non, je parlais du fleuve.
Ah.
Vous écoutez l'émission qui prend les actualités pour des jambons. Et voici les trois informations qui vont finir en tranche. Les Américains disent qu'aujourd'hui a lieu le Super Bowl de la politique. C'est le témoignage de l'ex-patron du FBI devant le Sénat qui relance la possibilité d'une destitution de Donald Trump.
Qu'est-ce que t'as encore fait? Tu vas me foutre le camp d'ici. Tu n'y remettras plus les pieds, t'as compris? Ta mère a raison, c'est fou à lui.
Hier encore, l'Homo sapiens avait 200 000 ans et jouissait de la vie. Et aujourd'hui, en se réveillant, il apprend qu'il a en réalité 315 000 ans. C'est-à-dire qu'il s'est pris 115 000 ans de plus en une nuit. Une réaction à chaud de l'Homo sapiens?
Il me semble que c'était hier.
Ah, bah c'est vrai. Autant vous dire que tout va très mal se passer. Oui, on est en France. C'est une culture sociale bien ancrée de dire que rien ne va. Les optimistes et les gens confiants sont-ils donc des hérétiques?
Ouh, mais dis donc. C'est vilain, cette affaire-là.
C'est toi qui es vilain. Faut être vilain soi-même pour trouver tout vilain.
Et moi, je suis accompagnée de celui qui est optimiste, sans pour autant être hérétique. Quel est son secret? Il est belge.
Évidemment. Bonjour, Charlie Donnemaker. Et aujourd'hui, autour de la table, pour notre invité, une belle équipe, 17h20, elle a un petit faible pour Henri Guénaud, mais elle ne sait pas très bien comment elle va l'annoncer à ses parents. C'est vous, Rukyata Ouedraogo. Bonjour.
Bonjour.
De quoi on va parler?
Ouh. Surprise!
Bon, ça, alors là, bah, ça vaut la peine de vous le demander.
Ouais.
C'est bien une femme. À 17h30, hier soir, il était dans l'émission Quotidien et l'audience a été meilleure que quand Tom Cruise est venu dans cette même émission. Il paraît que ce matin à Hollywood, il est dans les rues en train de poser des questions aux gens avec un micro. Courage Tom, et il faut faire comme Guillaume Meurice, évidemment.
Oui, je ne suis pas scientologue, hein, moi-même. Je me suis intéressé à la réforme du code du travail aujourd'hui. J'ai donc rencontré des travailleurs.
Alors moi, je travaille déjà 10h, 12h par jour.
Dans les bureaux de Radio France, c'est le choc. Et à 17h40, elle a de longues mains de dentelière à tailler l'âme d'un vermeer. Cette manière de traverser quand elle s'en va chez le boucher. Quand elle arrive à ma hauteur, pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. C'est Clara Dupont-Moineau, bonjour.
Bonsoir Charline.
Vous n'aimez pas Pierre Bachelet?
J'aime beaucoup Pierre Bachelet.
De quoi on va parler?
Du livre de notre invité.
Ah bah, mais qui c'est cet homme-là?
Eh bien, je me tourne vers celui qui a tout annulé pour nous. Vous commencez par écrire dans les toilettes de la Lyonnaise des Eaux, où vous travaillez comme conseiller juridique pendant 10 ans. Bien. Votre premier roman, Bleu, Blanc, Rouge, paraît en 98. Il est couronné du Grand Prix littéraire de l'Afrique noire. En 2005, Vert cassé vous révèle au grand public et vous recevez ensuite le prix Renaudot pour Mémoire du porc-épic. Vous écrivez aussi de la poésie, des essais. Vous enseignez la littérature francophone à l'Université de Californie, Los Angeles. Vous avez occupé une chaire au Collège de France.
Ben oui, là.
Vous êtes donc...
Nul n'est parfait.
Mais qui êtes-vous?
Ben, je le sujet qui viendra d'ailleurs, le Collège de France est impliqué avec le vieil homme de 300 000 ans là.
Ah, effectivement.
Les restes sont au Collège de France, on peut aller voir.
Mais déclinez-nous votre nom, on veut savoir. Ben,
je suis donc Alain Mabankou,
voilà.
Du Congo Brazzaville.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Quand vous dites l'Homo sapiens, c'est au Collège de France, vous ne parlez pas de Jean d'Ormesson.
Ah non,
d'accord, non, c'est parce qu'il faut préciser.
Lui, c'est l'académie.
Le grand frère est à l'Académie française. Et il a les plus beaux yeux paysage littéraire français.
Ça, c'est vrai. Alain Mabankou, vous êtes avec nous aujourd'hui, on est ravis. Vous avez une actualité très riche. D'abord, par exemple, la plus proche, ce week-end, vous participez aux Écrivains du Monde, Résonance Afrique-Caraïbe à Paris. Vous intervenez demain à 19h dans ce cadre-là. Et puis, il y a le festival Culturissimo qui a lieu dans toute la France jusqu'au 24 juin. Et vous, Alain Mabankou, vous présenterez votre bibliothèque africaine le 16 juin à Pau. Vous publiez aussi Penser et écrire l'Afrique d'aujourd'hui au Seuil. C'est sous votre direction. Première question, parce que quand on vous voit, on parle littérature d'Afrique, littérature francophone, française, des Afriques, des Noirs, du Noir. Donc, allez, on va essayer de définir tout ça.
Bah oui.
Parce que c'est pour bien s'entendre sur les vocables. Mais première question. Johnny Clegg, il est blanc à l'extérieur, noir à l'intérieur. Dans la musique, il est considéré comme forme de musique africaine. Est-ce que il existe des écrivains qui seraient les Johnny Clegg de la littérature, blancs qui parleraient de l'Afrique comme un Africain?
Bien sûr, et qui sont africains. Je pense à Mia Kouto de Mozambique, je pense à Kwetse de l'Afrique du Sud, on pense à Nadine Gordimer qui était aussi... Ils sont nombreux, parce que nous, en Afrique, on ne voyait pas forcément la couleur. La couleur est un inconfort inventé par l'Occident. Nous, les Blancs, on le trouvait, bon, ils sont différents, c'est pas grave, on va les prendre comme ils sont. Mais ici, en général, on met ces étiquettes. Tous ces écrivains, pour moi, ils mettent la littérature comme... Agualusa, qui est angolais et pratiquement qui n'est pas noir comme moi. Donc l'Afrique n'est pas forcément, comme on dit toujours, l'Afrique noire. Il y a des peuples multiples et même à l'intérieur de ce qu'on appelle les ethnies, les Peuls, il y a des différents Peuls à l'intérieur, les Mandingues, il y a les différents, les Congos, ben vous avez les Congos qui sont plutôt larides, les autres qui sont plutôt Dondo. Donc c'est tellement différent que ce qui nous reste, eh ben c'est ce sentiment de créer une chaîne humanitaire humaine même entre nous et de participer dans une vie d'ensemble. Ça prouve que les Africains, nous avons inventé la démocratie avant l'Occident. L'Occident a inventé la théorisation de la démocratie et nous, on a inventé la pratique de la démocratie.
Ah, ben voilà qui est dit.
Que vous avez laissé tomber depuis.
Ah non, on n'a pas laissé tomber. Ce sont quelques individus
qui l'ont confisqué.
Sassou Nguesso, Bongo, Eyadema, etc., qui sont en train de confisquer cette démocratie.
Ah, attendez, ils sont élus quand même, ces gens-là. Ils sont 98%. Excusez-les d'avoir du talent.
Ils sont élus par eux-mêmes.
C'est
différent. Ils changent la constitution, ils se regardent le nombril, ils portent des galons. Certains, même à l'époque, voulaient être comme des Napoléons avec les mêmes honneurs, Bokassa, etc. Voilà. C'est pas des élections, c'est des semblants d'élections.
Et toujours sur cette question de penser, écrire l'Afrique d'aujourd'hui et parler de cette littérature, Clara Dupont-Mono, toujours concernant cette question, la question de Johnny Clegg.
Oui, parce que certains écrivains, par exemple, Karen Blixen, qui a écrit
La ferme africaine
qui est danoise.
Voilà, elle est née et elle est décédée au Danemark.
Oui.
Arthur Rimbaud a passé ses dernières années en Éthiopie. Donc la question c'est, est-ce que pour vous, un occidental peut parler, aimer, être dans l'Afrique autant que quelqu'un qui y serait né?
Écoutez, pour moi, j'ai toujours prêché la posture qui dit que peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris. Donc, que ça soit blanc, noir, l'amour n'a pas de couleur. On s'étonne pas si je suis noir et que je tombe amoureux d'une asiatique ou bien, je ne sais pas, d'une européenne. Ça pose pas de couleur. Aimer l'Afrique ne demande pas d'avoir au préalable la couleur noire.
Donc la littérature africaine n'a que faire du droit du sang, en fait.
La littérature africaine se débarrasse même du droit du sang. Et même le droit du sol, puisque l'Afrique n'est pas seulement continentale. L'Afrique, c'est là où s'éparpillent toutes les cultures africaines. Vous trouvez l'Afrique du côté du Brésil, vous trouvez l'Afrique du côté de Cuba, vous trouvez l'Afrique à Barbès-Rochechouart, vous trouvez l'Afrique à Santa Monica, puisque je vis à Santa Monica en Californie, et que lorsque le consul de France veut inviter un auteur français pour présenter aux Américains, comme Houellebecq est à des dizaines de milliers de kilomètres, c'est moi qui me tape le rôle de français de service.
Alain Mabankou est avec nous jusqu'à 18h. On va en profiter. Votre dernier essai s'appelle Le monde et mon langage, publié chez Grasset. Et puis, donc, je rappelle que dans le cadre du festival Culturissimo, vous êtes à Pau le 16 juin. Et ce dimanche aussi à l'Institut du Monde Arabe.
Tous les dimanches.
Tous les dimanches.
Voilà.
Incroyable.
I do not agree. This is not for me. No. Musical genocide. I will not commit. Nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel singer giving those messages of love. Woe in the soul, man, with your heart in the palm of his hand, singing his stories of love and pain. Oh, I do not agree. I do not agree. This is not for me. No musical genocide. I will not commit, nor will I submit. Musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and what about the gospel singer, heavenly messages of love and woe the soul. I do not agree, I do not agree, no!
Grégory Porter sur France Inter pour agrémenter cette émission consacrée à Alain Mabankou et pour l'entourer, Alex.
Eh bien, Rocriata Ouedraogo, Guillaume Meurice et Clara Dupont-Mono. Que voilà. Des gens bien, quoi, aujourd'hui.
Effectivement.
C'est pas tous les jours que ça arrive.
Allez, il est l'heure des actualités radiophoniques.
Bon, allez, à Bruxelles, j'ai pris le train.
Vous mentez. Le journal de presque 17h17.
Ça vous reprend.
C'est un mensonge.
Et on commence par les titres.
Frédéric Lefebvre annonce qu'il quitte les Républicains.
Le choc. Il redevient donc un esprit libre, comme ses maîtres à penser, Zadig et Voltaire.
C'est ce soir que David Pujadas va faire ses adieux au JT de France 2.
Et voilà, Pujadas perd sa place et Anne-Sophie Lapix.
Et des brèves.
Évidemment qu'il y aura des brèves. Parce qu'ils ne feront jamais leurs adieux, les brèves.
Et on commence avec ce séisme politique.
On peut parler là de tsunami. Frédéric Lefebvre quitte les Républicains et ce matin sur France Info, il a tout déballé parce qu'on lui a fait des menaces.
Avec des menaces qui m'ont été faites, y compris par Nicolas Sarkozy lui-même. À Pasadena, quand Carla était venue faire un concert et que dans la loge, j'ai subi ces menaces.
Oh, et Frédéric Lefebvre a reçu des menaces de Nicolas Sarkozy lors d'un concert de Carla Bruni, alors qu'à mon avis, c'était déjà la menace qui était mise à exécution puisqu'il l'a obligé à aller à un concert de Carla Bruni.
Législative, l'ex-actrice porno Zara White se présente dans la 8e circonscription des Yvelines.
Dans le 7-8.
Bah ouais, ouais. Hein,
c'est marrant, je l'aurais plutôt vu dans le 6-9.
Merci,
ça fait plaisir à Manuel Valls, hein, qui voulait plus de White, plus de Blanco. Zara va pouvoir remplir ce rôle-là.
Passons au gouvernement.
Oui, en marge d'un déplacement hier soir à Villeurbanne, Gérard Collomb n'a pas tari d'éloges au sujet du président.
Oui, pour lui, Emmanuel Macron a révolutionné le monde.
Révolutionné le monde. Va falloir se calmer un peu, pépère, parce que même les apôtres, ils n'étaient pas aussi enthousiastes à propos de Jésus.
Et le ministre de l'Éducation, oui. Jean-Michel Blanquer, veut à nouveau autoriser autoriser le redoublement.
Et c'est bête parce que ça va faire moins de candidats pour la télé-réalité vu que la plupart seraient toujours à leur 10e CM2.
Parlant éducation, justement, vous avez écouté une autre radio ce matin?
Oui, c'est pas bien. Je suis désolé, j'ai laissé traîner mon oreille sur RMC. Et le matin, les auditeurs peuvent appeler. Alors, je sais pas si t'as organisé ou pas, mais en tout cas, il a téléphoné. Il avait envie de parler d'éducation avec Jean-Jacques Bourdin et rebondir notamment au propos d'un invité. Je vous laisse reconnaître cet auditeur improbable.
Il disait aussi, l'enseignement scolaire n'est rien auprès de l'enseignement de la vie, qui n'est rien auprès de la vie.
Oh là. C'est là où Bourdin vous cassez les codes. Parce que Bourdin, souvent, on se dit, il est là, il crée de la polémique, il fait le faux naïf quand il pose une question à Colomb ou à Béroux, et tout d'un coup, il peut te placer la réplique au bon moment. Toujours donnant une petite parole au gars qui habite l'Aveyron. C'est ça. Cette radio, vous savez, moi, je suis toujours pris dans un conflit. Ouais. France Culture ou RMC? Pour frimer, je me mets France Culture quelques minutes. Mais j'ai une attirance vers RMC, comme une libido pas assouvie. Je vais aller, vas-y, fais-toi du Bourdin avant d'aller tourner.
Fabrice Luchini et l'orgasme RMC.
Science à présent, une équipe internationale a découvert que l'Homo sapiens était né au Maroc 115 000 ans plus tôt que ce que l'on croyait.
Voilà, sale journée pour les gens du Front National qui viennent d'apprendre qu'ils descendent d'un homme marocain.
Technologie, les jours du clavier AZERTY sont comptés. Le ministère de la Culture lance une enquête publique pour remplacer le clavier par une version plus ergonomique.
Et c'est vrai que le clavier français favorise des fautes de frappe, surtout quand on veut écrire trop vite. Et... Attends, non, c'est parce que le V est trop près du B.
Oui, c'est ça, oui, c'est merci, on avait compris. Oui. Allez, des brèves.
Valence, il déclenche une alerte terroriste en récitant sa pièce de théâtre dans les toilettes d'un TGV.
Bon,
une douzaine de militaires sont intervenus dans le train entre Marseille et Paris pour déloger un homme potentiellement armé et dangereux. Des toilettes où il était retranché, en fait, il était en train de répéter son texte. Shakespeare Pirakbar, je crois qu'on en est là.
Allez, une dernière.
La dernière, La Voix du Nord. Je vous lis le titre. L'ERS, il téléchargeait des fichiers pédophiles par curiosité. C'est ce qu'il a dit au juge et c'est une excellente défense. Ça remet en perspective. Marc Dutroux, c'était pas un pervers, c'est une montagne de curiosité.
Allez, avec Alain Mabankou, on va aborder ce premier sujet. L'ex-directeur du FBI peut-il faire tomber Donald Trump? James Comey est auditionné par le Sénat et l'enjeu est tel que les Américains appellent ça le Super Bowl de la politique. En question, les collusions entre l'entourage de Trump et la Russie qui a interféré dans l'élection présidentielle. Et d'ailleurs aussi, le Courrier international aujourd'hui pose cette question à propos de Trump. Jusqu'où ira-t-il? Nous, on a trouvé une réponse. Écoutez.
Demain, dans les Alpes suisses, le sommet international de la paix réunira les plus grands dirigeants de notre planète dans un château isolé.
Celui qui contrôlera le château contrôlera le monde. Et c'est nous, Minus, qui allons contrôler ce château.
Brillant, Cortex, Zord, mais comment?
Avec mon immobilisateur réfrigérant, Minus, nous allons givrer les dirigeants du monde pendant 24 heures et nous serons les maîtres. Le pouvoir suprême sera à nous.
Minus et Cortex. Eh oui. Cortex pour Trump, ça lui va tellement bien. Alain Mabankou, oui. Vous qui vivez à Santa Monica, qui enseignez à l'université Los Angeles, Californie, vous y croyez, vous, à une destitution de Trump?
Ben, le problème de la destitution, comme dans tout crime, l'élément qu'on appelle le mobile est essentiel. Il faut donc démontrer que dans les discussions que Donald Trump avait avec James Comey, qu'il y avait l'intention de Donald Trump de faire obstruction à la justice. Et à ce moment-là, nous serons dans une situation justement qui pousserait vers l'empire. Impeachment, comme il dit, de la destitution à la Nixon dans ce sens. Donc, l'élément essentiel, qui est un élément, tous les juristes le savent, j'ai fait des études de droit jusqu'en troisième cycle, tous les juristes le savent que le mobile est un élément essentiel dans vraiment une infraction. Et il sera difficile de prouver le mobile de Trump qui, se disant que j'invite Comey pour lui dire, écoute, laisse tomber le général Flynn qui était l'ancien, c'est un homme bien, let it go, laisse tomber.
Il aurait dit,
etc.
Ne l'embête pas, voilà. Il aurait dit. Ouais,
donc, actuellement, puisque j'étais en train de suivre la première heure de ces auditions.
En direct à la télévision.
Par MSNBC, puisque je peux pirater ça sur mon
ordinateur. Vous pouvez l'avoir aussi apparemment sur la RTBF qui traduit, qui sous-titre en français.
Mais les Belges ont toujours des ouvertures. donc,
sont
c'est
des
très
pirates.
Bien. Voilà.
Donc, les Belges sont des pirates.
J'étais en train de suivre effectivement cela. On a posé la question à James Comey. Est-ce que que vous pensez que Donald Trump peut-être est susceptible d'encourir cette procédure d'obstruction? Il a dit, ce n'est pas à moi de le dire, mais ce que je sais, c'est que le département de la justice ou le FBI est en train de faire une investigation dans ce sens pour voir si l'agissement, son agissement pendant ces réunions, ces agissements peuvent constituer une infraction d'obstruction à la justice. Alors, si l'infraction est caractérisée, effectivement, la procédure de destitution va s'en suivre, mais ça prend du temps. Hein, on sait que le Sénat, le Parlement américain s'est bourré des républicains. Ils veulent pas perdre leur gâteau. voilà, s'ils perdent le gâteau, ils veulent pas se retrouver dans une situation où, eh ben, ça va être terrible. Et puis, la base populaire de Donald Trump ne fléchit jamais. C'est ça qui est extraordinaire et lugubre aux États-Unis. C'est une base que Donald Trump se gratte. On dit, oh, qu'est-ce qu'il se gratte majestueusement. qu'il baille. Oh, il baille même en regardant la direction de la Mecque. C'est toujours cet enthousiasme qui fait que...
Nous débecte, nous, certains l'admirent. C'est ça
mais
que vous
le
dire.
Problème, en tant que spécialiste de la télé-réalité, Donald Trump s'est trouvé... l'information personnelle qui va faire que tout ce qui avait fait capter l'attention du monde entier va se détourner par un simple tweet. Par un simple tweet, ben on va regarder de l'autre côté. Eh oui. Quand vous voyez, il y avait le fait qu'il avait la possibilité d'empêcher ce James Comey de témoigner.
L'ex-dirigeant du FBI.
Parce que le président a cette prérogative en disant que nous avons peut-être évoqué des choses qui sont de l'ordre d'intérêt de la nation. Mais le problème, c'est que la pratique de Twitter a gaspillé cette possibilité puisque lui-même, il racontait ce qu'il se disait avec Comey. C'est pour cela, au fond, qu'il a été incapable de revendiquer cela puisqu'on allait dire, mais écoutez, tu as dit que c'était quelqu'un qui ne travaillait pas, etc., etc., qui était mal, etc. Donc, tu ne peux pas interdire qu'il puisse parler.
Eh bien, Trump inspire énormément Alain Mabankou et c'est vrai que vous nous avez...
J'ai vu là-bas.
Évidemment. Et donc, vous avez vu les images avant de venir et vous nous avez informés. À côté de vous, Rukyata Ouédraogo. Oh, ça va. Vous n'êtes pas trop fébrile, c'est un peu votre idole.
C'est moi qui suis obnubilé, j'arrive même pas à regarder à droite.
Oh là là, ça chauffe ici, attention.
Les auditeurs ne savent pas ce qu'ils ratent les visuels.
Ils peuvent nous voir sur franceinter.fr.
Oh là là, on a trahi le secret.
C'est allez-y. À vous.
Je suis particulièrement fière et heureuse d'être assise en face du grand Alain Mabankou. Mais je suis très triste aussi car quand Charline m'a dit que vous seriez l'invité du jour, j'ai immédiatement appelé ma mère qui vit à Ouagadougou. Vous saviez combien m'écoute ma mère en téléphone? Bref. Allô maman, je serai tout à l'heure à la radio avec Alain Mabankou. Alain Mabankou? Mais c'est un grand quelqu'un. Hé hey, ma fille, donc tu es arrivée, hein? Tu as vu ça? Comme dit le proverbe, yam ne yam tinab tuk mogo. Bon, je traduis pour les Français qui ne parlent pas encore le moré. Voilà. Avec la patience, tu finis par faire porter des fagots sur sa tête par le roi lui-même. Bon, maman, il faut que tu écoutes l'émission, hein? Oui, à la radio, avec la radio que je t'ai envoyée là. Ah, la radio là? Mais où est-ce qu'on met les piles même? Mais maman, c'est une radio solaire, tu n'as pas besoin de piles. J'ai pas besoin de piles, waouh. Mais Dieu est grand, mais le blanc n'est pas petit. Bon, ma fille, la radio là, je ne peux pas écouter des émissions de France si c'est pas RFI seulement. Dis-moi, vous ne pouvez pas faire l'émission sur RFI? Mais enfin, maman, je travaille pour France Inter, c'est pas pareil. Bon, faut pas t'inquiéter, ma fille. Comme on dit chez nous, si tu veux boire de l'eau fraîche, il faut aller au puits toi-même. Donc, je vais aller chez les nièces pour écouter sur leur ordinateur. Ma mère est donc allée chez les nièces, donc entourée des cousins, les neveux, oncles et tantes, elle m'a rappelé. Ma fille, je suis avec les nièces là, mais le câble de l'ordinateur est gâté et la batterie est morte. Mais tonton vient de trouver une solution. On va aller chez le mécanicien. Il a un vélo avec une dynamo. Ils sont donc allés tous chez le garagiste qui a branché son vélo sur l'ordinateur. Mais comme les nièces avaient fini leur forfait, elles n'avaient plus de connexion Internet. Donc je les ai fait un transfert d'argent pour qu'elles puissent se racheter du crédit. Mais une heure après, ma mère, tonton, tantie, les nièces, les neveux et les garagistes m'ont rappelé du Western Union pour me dire que c'est délestage depuis ce matin. Il n'y a pas d'électricité, rien ne marche. Hein? Il n'y a pas d'électricité nulle part à Ouagadougou. Mais non, c'est juste dans notre quartier là. Mais dans les quartiers, là-bas, là où se trouvent les riches là. Là-bas, il y a électricité. Eh bien, allez-y. Mais il n'y a pas Western Union là-bas. Et ils n'ont pas besoin qu'on les transfère de l'argent. Ah oui, c'est vrai. Bon, vous allez me rendre folle quand même. Hein. Bon, allez, filez chez la cousine de la camarade de la maman du beau-frère du tonton qui est ministre. Pour solliciter une audience, il pourra bien vous prêter de l'argent, non? Bon, je vous la fais brève, hein, pour résumer. Ils y sont tous allés, maman, la famille, les garagistes, les gars de Western Union. Bref, tout le quartier, quoi. Mais le ministre qui a été limogé récemment est un peu moisi en ce moment. Mais il a quand même accompagné maman chez le directeur, son ami, le directeur de la banque centrale, qui pourrait les aider. Avec derrière eux, la grande famille, tout le quartier et tous les badauds qui se sont agrégés au cortège. Mais le banquier, affolé par cette manifestation devant sa porte, a pris ses jambes à son cou en lançant à sa femme. Hé, dis-leur que si c'est pour les 1 million qui manquent là, ce n'est pas moi. Hein. Moralité, 500 personnes sont arrêtées. Plantée là, dont 480 ne savaient même pas ce qu'elle foutait là. Et toujours impossible d'écouter l'émission. Voilà. Donc, je suis très frustrée parce que moi, ici à Paris, je peux être assise à côté du grand Alain Mabankou, alors que ma famille là-bas ne pourrait même pas nous écouter. Alors, je voudrais savoir, monsieur Mabankou, oui. Car j'ai adoré votre leçon inaugurale au Collège de France. Prévoyez-vous d'aller donner des conférences à Ouagadougou pour que ma mère puisse venir vous écouter ici? Et si oui, est-ce que je peux vous donner quelques commissions pour la maman? Enfin, bien sûr, si vous avez quelques places dans votre valise. Hein. 20 kilos, ça ira?
Oui, ça ira. Bon, c'est parfait. J'essaierai de trouver la carte platinium. Hein.
Merci. Roukata Ouédraogo, la chronique pimentée de Roukata que vous pouvez revoir sur franceinter.fr. Et je rappelle que vous serez au point virgule cet été. Hein.
Oh là, oui, tous les mercredis soirs à 21h15, août et juillet.
Je ne vais pas rater ça.
Ah. Ah, formidable. C'est aussi grand quelqu'un, Roukata. C'est parti. Voilà.
Pied dans le réverbère, un homme assis au soleil couchant, ça soupit. Il avait tout ce jour essuyé la poussière de ce réverbère. Le voilà qui s'endort au son des claquetis de la pluie sur les dalles de béton clair. Le voilà qui s'installe, l'homme vieillit contre ce réverbère. Il
réverbère sur France Inter, où nous sommes en compagnie d'Alain Mabankou. Clara Dupont-Mono va revenir sur votre dernier livre tout à l'heure. Là, elle est partie faire pipi.
On a perdu. Donc, on fait semblant de rien.
Elle sait pas qu'on le dit. Il n'y a pas de haut-parleur dans les toilettes de France Inter.
C'est l'âge aussi, à un moment donné. Voilà.
Vous aussi, chez vous, si vous devez faire pipi, attendez quand même la fin de l'émission. Parce que là, tout de suite, c'est Guillaume Meurice.
Oui, alors moi, je vais vous parler de la réforme du Code du travail aujourd'hui, puisque Macron a décidé de
s'y coller avec la délicatesse de Rocco Siffredi dans un concours de poésie baroque. Alors c'est difficile d'avoir les détails de cette réforme parce que le ministère du Travail a juste fait fuiter dans la presse les pires trucs pour pouvoir ensuite les enlever et dire « Mais non, regardez, les médias vous mentent, la réforme est beaucoup plus cool ». C'est la même technique en fait qu'utilise Alex au bureau. Hein. Il dit à Charline « J'aurais fini l'écriture du sketch à 16h59 ». Comme ça, Charline, elle, elle gueule, elle fait « Ah, c'est pas bien ». Et après, il dit « Mais non, tu l'auras à 16h56 ». Et tout le monde est soulagé. Voilà. Mais bon, la réforme du code du travail s'annonce violente quand même pour les travailleurs. Alors pour parler de tout ça, je suis allé ce matin à l'espace Champéret où avait lieu le salon des 10 000 emplois. Ah, et j'ai rencontré plein de gens sympathiques qui font quoi ?
Des tables rondes, il y aura des flash business meetings.
Qu'est-ce que c'est un flash business meeting ?
On se présente, je suis candidate, j'ai 1 minute 30 pour me présenter.
Ah ouais, c'est chaud.
Ouais, c'est ça.
En une minute, il faut arriver à se vendre.
Une minute, c'est super dur. Il faut construire ce qu'on appelle un pitch.
Donc vous allez faire des pitchs dans les flash business meetings.
On va faire ça.
Yes, un pitch et c'est un mover. Autant dire que si t'as pas Bac plus 8 en anglais, option Young Cadre Dynamique, tu peux ranger tes ambitions dans ton slide. Il y a un langage, précis. Enfin précis, hein, au salon pour attirer les gens. Il y a aussi des slogans, exemple.
C'est tout simple, c'est le futur là où vous serez.
Le futur là où on sera.
Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Ça va consister à voir le futur au présent.
Ça consiste à voir le futur au présent.
Voilà, c'est intéressant.
C'est intéressant, mais c'est un peu flou, non ?
Eh ben oui, c'est fait exprès.
Ah, bien vu, bien vu, bien vu, c'est typiquement Macron, ça. Alors là, il faut un master en enfumage, avec option David Copperfield, dans ses plus grandes évasions pour vous en sortir. Mais rentrons dans le vif du sujet, l'ubérisation, tant chérie par notre président, avec une entreprise qui fait quoi ?
Alors nous, on recherche des consultants immobiliers indépendants.
Vous mettez en contact des agents immobiliers indépendants et des gens, effectivement, qui cherchent... un logement.
Alors aujourd'hui, on cherche les personnes qui vont mettre en contact les vendeurs d'un logement et les acheteurs d'un logement.
Bien. Vous cherchez les intermédiaires.
Et on cherche les intermédiaires.
Vous êtes les intermédiaires qui cherchez les intermédiaires.
Voilà, c'est ça.
Alors voilà, alors là, c'est carrément de l'uber-ubérisation. Hein. Ils recrutent des travailleurs, mais qui resteront quand même indépendants, donc qui payeront eux-mêmes leurs charges sociales, hein, c'est malin. Donc ce seront en fait leurs propres patrons, mais avec des patrons. Vous avez compris le truc ? En fait, bon, voilà, je vous explique, si tu te fous en grève, t'es obligé de te matraquer la tronche toi-même avec une matraque de CRS. Voilà, c'est la société Macron. Alors, autre spécificité de la réforme, il veut supprimer la notion de pénibilité dans le travail. Donc, ça se voit qu'il n'a jamais bossé avec Clara Dupont-Mono, déjà. Alors, je suis allé voir les agents immobiliers pour leur parler pénibilité.
Honnêtement, aucune pénibilité.
Pour être agent immobilier, non, rien.
Non, je pense pas. En même temps... C'est encore une fois, ça dépend ce que vous trouvez pénible ou pas.
Escroquer des gens, c'est pas pénible.
Ça veut dire quoi, escroquer les gens ? Nous, honnêtement, moi, je vais vous dire, moi, j'accompagne des gens dans un projet.
Mais en gonflant un petit peu les marges, quand même.
Non, on gonfle pas les marges, on prend des honoraires pour un service rendu.
Voilà, oui, pardon, on connaît le principe, hein, c'est pas du fist fucking, c'est de l'acupuncture. Attendez, on va pas se mentir, à partir du moment où t'es obligé de vendre tes enfants pour les loger, ça va plus, il y a un truc qui va pas, quoi. Après, non, mais je reconnais que ça doit pas être facile tous les jours de travailler dans le cartel de Medellin, dans le secteur immobilier, pardon, excusez-moi. Tiens, je suis allé parler pénibilité avec des militaires, ça aussi c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on en pense du côté de la Marine nationale ?
Il y a effectivement de la pénibilité, puisqu'il faut être disponible 24 heures sur 24.
Est-ce que passer 3 mois avec des militaires sur un bateau, est-ce que ça, c'est pas pénible pour le coup ?
Non, parce qu'après, on a l'habitude, enfin... Pour certains, ça peut l'être.
Voilà, oui, disons qu'il faut aimer les concours de paix plus que le Scrabble, à mon avis. Non, mais c'est vrai. Après, je ne doute pas qu'on doit passer des bons moments entre deux bites au cirage et trois chansons paillardes. Alors, j'ai poursuivi avec ce même recruteur de la marine.
Est-ce que c'est pas pénible d'envoyer des missiles sur des gens ?
Après, on reçoit toujours l'ordre d'envoyer des missiles, quoi que ce soit. Donc, ça fait partie de notre job. Donc, on n'est pas sur un système d'attaque directement, mais sur un système de défense. Donc, c'est pour aussi...
Mais quand même en envoyant des missiles.
Effectivement.
Oui, voilà, en faisant ce qu'on appelle des frappes chirurgicales. Alors au niveau de la chirurgie, on est plus dans le docteur de la joue, hein, quand même, que sur de la précision maximale. Mais c'est pour leur bien, hein. Je vous rappelle qu'on apporte la démocratie quand même. Hein, merde, hein, ils ont des bras arrachés, et ben ils voteront avec leurs pieds, ça changera pas d'ici. Allez, concluons avec une dernière question pour ce militaire. Est-ce que la pénibilité, c'est pas finalement de recevoir tout le temps des ordres ?
C'est une question d'habitude. Qui, à part le président de la République, ne donne pas des ordres ?
Bah, moi, j'en donne pas, par exemple.
Ah si, vous avez des sous-fifres.
Moi ?
Vous devez en avoir.
Ah, j'en ai aucun.
Donc, mais vous recevez des ordres ?
Non plus.
Non plus. Ah, c'est, oui, vous êtes assez libre, donc oui. Non. Enfin, nous, voilà. Après, c'est une question d'habitude.
Vous m'enviez, du coup, un peu ?
Non.
Allez, démissionnez, rejoignez-moi.
J'ai fini bientôt.
Ah, il a bientôt fini. Enfin, qui s'enflamme pas trop, parce qu'après la réforme du Code du travail, il y a celle des retraites. Ces 5 prochaines années avec Macron s'annoncent quand même bien pénibles.
Guillaume, Guillaume Meurice, merci. Nous sommes toujours avec Alain Mabankou, que vous pouvez voir à
la mauvaise foi de ce garçon. Alain Mabankou, ça vous fait quoi quand vous entendez ça? Vous n'avez pas ri. J'ai remarqué, vous n'avez pas ri.
Ah, si. Alors moi, je pense, je ris de l'intérieur. Ah, voilà. C'est beau.
La jalousie de cette femme.
Non, je riais, mais je faisais de sorte qu'on n'entende pas trop mon rire, puisque ça lui était destiné.
Elle était aux toilettes pendant la première moitié de la chronique. À un moment,
De toute façon, la chronique humoristique, c'est quand Clara parle sérieusement. Donc.
Oui, elle va y revenir tout à l'heure pour parler du livre « Penser et écrire l'Afrique d'aujourd'hui », dirigé par Alain Mabankou et paru au Seuil. Et Alain Mabankou, vous serez le 16 juin à Pau pour présenter votre bibliothèque africaine lors du festival Culturissimo qui se passe dans toute la France jusqu'au 24 juin. Oui. Et on va aborder avec vous ce deuxième sujet. Le plus vieil Homo sapiens n'a pas 200 000 ans. Il a 315 000 ans et ne vient pas d'Afrique subsaharienne. Il vient du Maroc. Homo sapiens, il a menti sur son âge, dites-donc. Ça commençait comme ça, l'histoire de l'humanité. En tout cas, ceci est une révolution. C'est l'équipe du professeur Hublin qui a fait cette découverte. Imaginez un peu la réaction du professeur Hublin une fois qu'il s'est retrouvé face à Homo sapiens.
Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Quelles conneries?
Ces conneries sur votre âge. Vous vous foutez de la gueule de qui?
Dites, c'est quand même pas ma faute. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire de toute façon?
Ça peut me faire que cette année, il était prévu que j'offre à mes sujets leur âge en nombre de pièces d'or. Faites pas celui qui est pas au courant.
Mais non, j'en savais rien. Parlez d'une idée de con en plus.
C'est pas la mienne.
Vous me demandez mon âge, je vous réponds.
De toute façon, personne ne va les vérifier.
Bah, à cette époque-là, il n'y avait pas de registre.
Eh ben, mon petit vieux, si je puis dire, vous irez vous gratter. On vous offrira une paire de sandales et ça ira bien.
C'est pas juste.
Si vous voulez, je vous donne votre âge en nombre de charrettes de bouse. Ça vous va ?
Kaamelott, la série d'Alexandre Astier. L'Homo sapiens a donc 315 000 ans. D'un jour à l'autre, on vient de se prendre un coup de vieux de 115 000 ans. Vous le sentez ? Vous le vivez comment, vous, Alain Mabankou ?
Vous savez, nous sommes dans une époque où on ne parle plus que de l'âge. Ça permet à certains qui se croyaient vieillards et atrabilaires de se sentir tout jeune par rapport à cela. C'est vrai que dans ce qu'on lit à gauche et à droite, ça modifie beaucoup toute cette littérature que nous avons eue sur les origines du monde, sur l'endroit exact, le berceau de l'humanité qui serait du côté de l'Érythrée là-bas. Mais en même temps, pour moi, ça reste toujours l'Afrique, puisque c'est du côté du Maroc qu'on est allé le découvrir. C'est aussi montrer comment la mobilité était déjà inscrite, même chez nos ancêtres, des ancêtres.
Il paraît qu'il y a 300 000 ans, l'Afrique était intégralement verte. Pas de désert et les connexions entre groupes humains promettent d'ailleurs d'autres découvertes. Et effectivement, le professeur Hublin dit que cette découverte au Maroc, l'émergence de l'homme moderne est un phénomène panafricain.
Oui, mais je pense que pour vos éditeurs qui nous écoutent, c'est peut-être l'occasion d'aller découvrir les travaux d'un grand historien qui était aussi scientifique africain, qui s'appelait Cheikh Anta Diop, qui a écrit Civilisation et Barbarie, qui a écrit notamment beaucoup de choses sur l'Afrique précoloniale, qui parlait de toutes ces périodes, qui montrent de toute façon, quoi qu'il en soit, qu'il y a un problème qui tourne, que l'ancêtre demeure africain, qu'on ne vienne pas... Parce que je sais déjà qu'il y a quelques penseurs ou quelques chercheurs qui commençaient déjà à faire la danse du ventre. Youpi, les Africains ne vont plus nous dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voilà. Parce que l'intérêt de ces chercheurs, par exemple, c'est de nous faire croire que l'Égypte, par exemple, c'est pas l'Afrique. Ils préfèrent la coller du côté de l'Orient pour éviter que toute cette belle civilisation des pyramides, des momies, parce que les Grecs allaient bien en Égypte pour aller s'instruire, puis revenir pour nous imposer une philosophie qui est devenue une philosophie occidentale. Ça aussi, c'est des vérités à dire. La question même de l'au-delà, la question de la philosophie, elle existait déjà dans l'Afrique pharaonique. Les Noirs étaient présents, la population était dans ce sens... imposé dans une mobilité géographique. Donc moi, la découverte de l'ancienneté de notre ancêtre, si je peux le dire, ça correspond justement à ces thèses que soutenait Cheikh Anta Diop, qui disait que il faut inscrire aussi la question de la mobilité et de la géographie dans la recherche de ce que nous étions autrefois.
Je comprends. Adam
Non, c'est pas Adam, c'est Papy. C'est Papy Homo sapiens.
C'est par rapport à Adam.
Alain Mabankou.
Adam Diop.
Diop.
Adam Diop. Allez, allons-y, c'est parti. Clara Dupont-Monod, revenons un peu de sérieux avec le sourire. Pensez écrire l'Afrique d'aujourd'hui, dirigée par Alain Mabankou, paru au Seuil.
Eh bien oui, parce que c'est notre actualité principale aujourd'hui. C'est votre livre, Alain Mabankou, Pensez écrire l'Afrique.
Avec les autres.
Avec les autres, bien sûr.
19.
Mais celle de l'actualité de mon cœur, c'est celle-là. Oui. Pensez et écrire l'Afrique aujourd'hui. Alors, un titre pas hyper funky, on va pas se mentir, hein, mais c'est le nom d'un colloque que vous avez organisé lorsque vous avez été élu au Collège de France. C'était pour l'année 2015-2016. Mmh. Et une fois élu, vous vous étiez aperçu, plutôt stupéfait, qu'en fait, depuis la création du Collège de France, en 1530, la littérature africaine n'avait fait l'objet d'aucun cours, comme si l'histoire de France était absolument d'ivoire et non pas du tout d'ébène. C'est ce que vous rappelez dans votre introduction. Donc, vous avez réuni la fine fleur de la pensée africaine, tous vos potes, en fait, la Mabankou's Band, et qu'ils soient économistes, slameurs, dramaturges ou romanciers, tous ces gens-là sont venus parler à ce colloque que les médias avaient qualifié à l'époque d'historique. Arrêtez-moi si je me trompe, mais c'était l'adjectif qui avait été employé. Alors, on voit défiler différents points de vue, chacun avec ses mots, chacun avec sa façon d'être et qui parle de l'Afrique. Alors, par exemple, le romancier ivoirien Gauze, il est, pour mémoire, il a écrit un livre qui s'appelait « Debout payé », qu'on avait chroniqué ici, et qui racontait d'ailleurs la condition de vigile dans les grands magasins. C'était assez drôle. Et bien lui, il a livré quasiment une performance au Collège de France. Il a fait un texte très drôle qu'il a presque hurlé, et donc il a fait trembler les sages lambris du Collège de France. Mais il y a aussi la romancière, que j'aime beaucoup, Lucie Mushita, du Zimbabwe. Alors elle a choisi de raconter de façon très concrète les préjugés rencontrés à son arrivée en France, et notamment liés à la femme noire. Alors elle arrive, et elle se lie avec les gens, et puis au bout d'un moment, elle entend quelqu'un qui dit « Oh, j'aurais bien aimé t'avoir comme nounou !» Et elle l'entend vraiment. Et lors d'un dîner entre amis, donc elle s'est liée, etc., il y a la maîtresse de maison qui lui dit « Non mais attends, ça a été prouvé que les Africains sont aussi intelligents que n'importe quel humain, n'est-ce pas Lucie ?» Et elle l'entend. Et alors, ces énormités, comme elles sont proférées avec une espèce de bienveillance finalement exquise, ça rend le propos d'autant plus effrayant, sauf quand il s'agit, et là c'est très fréquent, c'est ce qu'elle nous raconte, des préjugés sexuels rencontrée, et là elle raconte une scène où un parent d'élève lui lance « Oh, l'allumeuse !» Elle fait semblant de ne pas comprendre, parce qu'en fait elle ne parlait pas bien français, mais elle sait des choses, hein, ma gazelle africaine. Et il lance ça alors qu'il y a sa femme à côté et que Lucie Mushita est avec ses enfants, et donc c'est connu, c'est la fameuse phrase des tontons flingueurs, mais les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Alors néanmoins, mon texte favori reste celui du grand économiste Célestin Monga, qui est pour moi un des plus beaux textes. Voilà, Penser la famine et la peur. Alors, pour info, je ne voudrais pas mettre la pression à Alex Vizorek, ça me ferait de la peine, mais Célestin Monga est directeur général adjoint de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Voilà, ça vous pose un homme quand même, ça montre qu'il y a un peu d'ambition un CV réussi. Mais il commence par le fameux discours de Dakar en 2007 de Nicolas Sarkozy. Ce fameux discours dans lequel, visiblement, je cite, l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire, c'est ce que Nicolas Sarkozy avait avancé. Et ça a beaucoup fait rire Célestin Monga, mais ça l'a aussi soulagé. Pourquoi ? Parce que, je cite, « ses propos prouvaient que même dans les pays les plus avancés de la planète, il y avait encore des dirigeants aussi incultes que les chefs d'État africains. Les peuples du monde étaient donc égaux face à l'incompétence de leurs gouvernants. » Et donc, il se dit très rassuré par ce qu'il appelle la démocratisation de la bêtise. Et alors, ensuite, il dit quelque chose d'assez intéressant. Il insiste sur la pauvreté qui règne en Afrique. Alors, il a un point de vue. Lui, il dit, c'est sans doute le mal fondateur, parce qu'en fait, il génère d'autres maux. Et que du coup, pour le combattre, il s'agit de s'émanciper de tous les discours entendus et se focaliser sur une logique économique. Je cite, « Il faut penser la productivité au lieu d'élaborer des théories fumeuses sur l'africanité et la négritude ou sur les méfaits de la globalisation. » Évidemment que c'est contestable. Mais c'est intéressant parce que c'est un point de vue. Et de surcroît, mine de rien, il dit quand même en creux que la faim en Afrique n'est pas une fatalité et qu'un savoir-faire économique peut être garant de stabilité. Il le répète, il dit « avancer, penser en période de famine et de peur n'est pas un exercice aisé ». Donc, vous voyez que cette démarche économique de Célestin Monga,
se mêle à la voix presque sociologique de Lucie Muchita, qui se mêle à celle un peu plus ludique de Gauze, dont je vous ai parlé au début. Et il y a d'autres voix encore, et cette pluralité finalement de vocalises, et ben chante l'Afrique en faisant appel à la fois à la tête et au cœur, au raisonnement et à l'émotion. Et voilà comment on dessine le visage d'un continent, peut-être en tendant juste l'oreille à différentes composantes de ce continent. Je vous donne les références du livre « Penser et écrire l'Afrique aujourd'hui » sous la direction d'Alain Mabankou est paru au Seuil.
Merci Clara Dupont-Monod.
Ben, je pense que c'est ainsi que je voulais vraiment que ce colloque au Collège de France se passe, c'est-à-dire toutes sortes de voix, toutes sortes de questionnements. Et je pense que Célestin Monga, que vous avez cité tout à l'heure, est un des grands intellectuels aujourd'hui. Il a écrit sur la négritude, il a écrit sur la philosophie bantou de l'Afrique centrale, allant même jusqu'en Afrique du Sud. Mais à côté de lui aussi, il y a des grosses pointures comme Célestin Monga, on a cité Achille Mbembe,
par exemple,
qui est présent. Il y a aussi l'académicien d'origine québéco-haïtienne, Dany Laferrière. Bon, il manquait peut-être un Belge parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose sur le Congo.
Vous allez voir, oui, voilà, c'est ça.
Mais le Congo belge est partout.
C'est le pays continent, on dit. Voilà. Hein, c'est... Alain Mabankou. Et tiens, lors du festival Culturissimo, où vous intervenez donc le 16 juin à Pau, vous allez présenter votre bibliothèque africaine. Oui. Elle ressemble à quoi, cette bibliothèque africaine?
En fait, quand on m'a demandé de le faire, moi je me suis dit, je vais faire une sorte de bibliothèque africaine pour les nuls ou les moins nuls. Hein, donc,
c'est-à-dire
que si aujourd'hui on vous dit je veux lire des romans des venus de l'Afrique noire en général, lesquels je dois lire? Et à ce moment, j'ai commencé à parler de... Je ne suis pas remonté jusqu'au déluge, mais ce n'est pas facile. La littérature africaine est jeune, elle a moins de 100 ans. Hein, elle a l'âge d'un être humain vivant. Ouais. Donc je me suis dit, bon, on va commencer aux alentours de 1921 avec le premier noir qui avait reçu le prix Goncourt, qui s'appelait René Maran, roman Batouala, publié chez Albin Michel, qui lui-même, c'est noir d'origine guyanaise, travaillait dans les colonies. Travaillant dans les colonies, il a pu critiquer de l'intérieur un peu cette sorte de colonisation qui s'est passée là avec des mots durs, aussi durs que la partie dans laquelle Louis-Ferdinand Céline critique les colonies dans Voyage au bout de la nuit. Donc il y a cette force que je retrouve effectivement dans ce livre René Maran, Batouala, qu'il faudrait lire comme une porte d'entrée parce que ça a redonné un peu la photographie des exactions qui s'est passé à l'intérieur de ces colonies, des exactions qu'on allait voir aussi chez les Albert Londres, hein, les Blancs quand même aussi critiquaient Albert Londres, André Gide, Voyage au Congo, Retour au Tchad, etc.
Et tout ça, ce sera donc à Pau. Hein, vous présentez votre bibliothèque africaine le 16 juin au festival Culturissimo. Alex Vizorek a une proposition indécente à vous faire, Alain Mabankou.
Ah ben enfin, on passe à quelque chose de grave.
Et enfin, on propose à l'invité un sketch qui joue avec nous en lien avec l'actualité. Alors, l'actualité, c'était hier Cyril Hanouna qui a pris une punition du CSA. 3 semaines d'émission sans publicité.
Oui.
Pour lui, c'est dur, mais comment ça s'est passé? Parce qu'il y a eu des négociations. On se rend au CSA. Vous êtes membre du CSA avec Charline Vanhoenacker, Guillaume Meurice et Cyril Hanouna. Comment s'est passée l'audition? Hé, salut mes petites beautés!
Bon. Bonjour, monsieur Hanouna.
Ah, tu peux m'appeler Baba.
C'est pas moi. J'ai pas répété.
Qu'est-ce qui se passe, mes petites beautés? Mes chéris.
La parole au CSA, monsieur Hanouna, de cette émission, le discuter ensemble d'une sanction juste et proportionnée suite à 2 séquences jugées problématiques.
C'est quoi? Ça me fait plaisir que vous ayez regardé l'émission. Même 2 séquences, c'est bien.
Oui, alors la première, je cite le rapport, montrant un simulacre d'assassinat.
Et la seconde, vous avez conduit une chroniqueuse. Et conduit ou conduit? Vous avez conduit une chroniqueuse qui avait les yeux bandés, a posé sa main sur votre organe génital.
Oui, super séquence, on a reçu beaucoup de tweets.
Oui, alors monsieur Hanouna, c'est pas drôle.
Mais si, d'ailleurs, il n'y a pas que ses yeux qui se sont fait bander. Je suis énorme.
Monsieur Hanouna, la sanction que nous avons à vous proposer est de supprimer la pub autour de votre émission pendant 3 semaines.
Mais vous êtes des ouf, les mecs, supprimer la pub, vous êtes complètement rasera.
Mais je ne connais pas ce mot.
C'est l'inverse de Darka.
Bon, oui, alors nous sommes bien sûr prêts à discuter, nous ne sommes pas obtus.
Ah, ça c'est Darka, allez, dites-moi. Et si vous voulez, je peux vous copier 200 fois, je ne ferai plus de touche pipi sur le plateau.
Il se fout de nous ?
Non, bah, moi je me fous de tout le monde, surtout des homos, mais tout le monde.
Monsieur Adonna, on avait pensé à quelque chose de plus radical.
Non, me dites pas que vous avez pensé à me faire recopier le Becherel.
Non, pensez plutôt à une réorientation de votre émission.
Ah, on la rallonge, excellent, on passe de 4h à 8h30 de direct.
Non, allez. Non, une réorientation intellectuelle.
Oula, Bolloré va pas être content là.
On aimerait que ce soit moins axé sur la télé et puis plus sur la littérature.
L'équivalent télé du masque et la plume, quoi.
Ah ouais, excellent, ah ouais, Mathieu Lelormand avec un masque et une plume, j'adore, énorme, c'est énorme.
Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait élever un petit peu le niveau, quoi.
Attendez, Gilles Verdez, il a du niveau.
Oh là là, il vous faut d'autres chroniqueurs.
Attendez, Benjamin Castaldi, il connaît les livres, il en a colorié plein.
Non, on vous propose de remplacer Enora Malagré par... Alain Mabankou.
Mais non, on a aussi pensé à Frédéric Taddeï, Bernard Pivot, Daniel Picouli.
À terme, on vous fera migrer sur Arte. Hein.
Allez, dites, mes chéris, la proposition de la suppression de pub, là, ça tient toujours ?
Oui.
Alain Mabankou, merci.
Merci beaucoup.
De vous être prêté au jeu.
J'avais pas répété. Hein,
comme tous les jeux, les textes, comme tous les jeux, vous êtes très bon.
Voilà,
je rappelle le livre que vous dirigez au Seuil, Penser et écrire l'Afrique d'aujourd'hui. Votre dernier essai, c'est Le Monde. Et mon langage, publié chez Grasset. Vous serez à Pau le 16 juin pour le festival Culturissimo. Les dimanches, vous êtes à l'Institut du Monde Arabe. Et ce week-end, c'est les Écrivains du Monde, intervention demain à 19h à Paris. Résonance Afrique Caraïbes, c'est du 9 au 11 juin à Paris. Merci beaucoup. On va laisser le... Alors demain, on sera avec Virginie Despentes, sachez-le. Et le mot de la fin, on le laisse au Sénat américain qui est en train de donner la fessée à Donald Trump.
Qu'est-ce que t'as encore fait? Tu vas me foutre le camp d'ici! Tu n'y remettras plus les pieds, t'as compris? Ta mère a raison, t'es fou allié!